Catherine Godreau analyse l'actualité de la Mauricie au 106.9 Mauricie.
Que la Mauricie se lève!
Alors, les cataractes qui ont dressé leur bilan hier. Je ne sais pas, juste avant d'aller le rejoindre, Serge, est-ce qu'on peut faire entendre peut-être, réentendre Martin Mondou? Est-ce qu'on a un extrait peut-être pas loin?
As-tu oui, bien effectivement, toi? Oui, j'ai l'extrait de Martin Mondou qui parlait justement là, à la suite de l'élimination ouais. Là, en première ronde face à l'Océanique de Rimouski.
Là, je vous répète, l'Océanique, elle ne nous a pas volé la série. Il méritait. Puis j'espère sincèrement que, regarde, on va grandir là-dedans. Maintenant, l'objectif, c'est pas de trouver un coupable, mais de faire preuve d'humilité là-dedans, puis voir comment on peut rebondir plus fort l'année prochaine avec le groupe de joueurs qu'on a en main puis en qui on a pleinement confiance. Notre premier défi, comme vous le savez, sera de trouver un entraîneur-chef.
Et les journalistes, bien sûr, au quotidien, le nouvelliste analyste des matchs des Cataractes sur nos ondes. Salut Steve!
Bon matin, Catherine.
Steve, je suis bien accompagnée, évidemment, de Serge et de Claude. On s'est jasé la semaine dernière. Bon, déjà, on avançait des choses. On attendait quand même le bilan officiel de l'équipe. Qu'est-ce que tu retiens du point de presse, notamment les points pour toi qui sont les plus importants de ce qu'a dit Martin Mondou hier?
Bien, tu sais, il n'y a pas de grande surprise par rapport à notre discussion de la semaine dernière. Par contre, on a quand même officialisé le fait que les joueurs ne seront plus regroupés au sein du lodge, la fameuse pension d'équipe qu'on avait instaurée pour faire face aux mesures sanitaires, pour protéger le mieux les joueurs. On s'est aperçu en cours de route que ça demandait des sacrifices supplémentaires aux joueurs, que certains n'avaient pas ça. Il y en a qui ont quitté en cours de route. Et à la suite d'un sondage qu'on a fait auprès des joueurs, ben Martin Mondou, Roger Lavergne, toute l'organisation des Cataractes a décidé de laisser tomber le lodge, on va retourner vers les familles de pension.
OK, parce que, si, puis on s'en est jasé un petit peu de ça, l'idée de base, moi, je pense que c'était la bonne, c'est-à-dire protéger les joueurs et tout le personnel contre la COVID. Évidemment, c'est l'aspect psychologique en bout de ligne, je pense, qui a joué aussi. Puis je dis pas que la décision n'était pas bonne, mais sur le long terme, ça a peut-être joué. Je pense que ça, c'est assez clair.
Bien, c'est sûr que c'est long, hein, plusieurs mois fermés, collés un peu les uns sur les autres, même si les Cataractes avaient fait un bon travail là, pour aménager une résidence, reste que ces joueurs-là étaient forcés, ni plus ni moins, de vivre ensemble 24 heures sur 24. Et ce qui n'a pas aidé Catherine, et ça, évidemment, les Cataractes ne peuvent pas le dire, mais moi, je vais te le dire, c'est que c'était la seule équipe qui était comme ça.
Exact.
Et en 2021, là, l'information, ça voyage vite. Et les joueurs des Cataractes savaient que pendant qu'eux s'imposaient tous les sacrifices nécessaires dans un lodge, ben, il y avait d'autres équipes, d'autres joueurs qui avaient droit à des libertés. Tu sais, une famille de pension, d'une à l'autre, les règles sont un peu plus élastiques. Il y a des joueurs, par exemple, qui pouvaient voir leur blonde au cours de la saison, qui pouvaient de temps en temps voir leurs parents. C'était pas le cas à Shawinigan. Et ça faisait de l'envie, de la jalousie. Okay. Et plus les mois avançaient, plus c'était dur à supporter. Quand tout le monde est dans le même bateau, quand tout le monde fait les mêmes sacrifices, c'est une chose. Mais quand tu vois les joueurs qui t'ont, qui pareil comme toi, mais qui est installé soit à Québec, soit à Victoriaville, peu importe, et qui, lui, a droit à avoir certains aménagements, je te dirais, certaines permissions spéciales, bien, soudainement, ce que tu vis, c'est un peu plus difficile.
Bien, moi, Steve, ma question, c'est que bien, hier, dans le point de presse, le Roger Lavergne, le président, et Martin Mondou l'ont dit qu'on avait consulté les joueurs après la saison pour savoir ce qu'ils en avaient pensé. Bon, on a sorti le chiffre à un moment donné qu'un joueur, un joueur sur deux n'avait pas nécessairement apprécié l'expérience. Ensuite, on est revenu avec un chiffre de 1 sur 4 qui n'avait pas aimé ça. Mais ma question, Steve, c'est est-ce qu'on sait avant le début de la saison, quand les dirigeants des Cataractes ont acheté l'immeuble en question, est-ce qu'à ce moment-là aussi, ils avaient questionné les joueurs?
Oui, absolument. Et tout le monde, à ce moment-là, à part deux ou trois joueurs qui, d'ailleurs, ont quitté, notamment Gabriel Denis, tout le monde était fébrile de vivre cette situation-là. Il faut dire qu'on avait expliqué aux joueurs à ce moment-là, Claude, que si on faisait ça, même si la Ligue allait être paralysée avec des cas de COVID, si les Cataractes n'en avaient pas de cas de COVID, on continuerait à jouer. C'était l'information qu'on avait donnée aux Cataractes. Or, cette information-là, c'est pas avérée véridique, vous le savez comme moi. Lorsque la Ligue s'est mise sur pause, ben, les Cataractes ont passé dans le tordeur comme toutes les autres équipes. Et c'est à partir de là, là, à la fin de l'automne, début de l'hiver, qu'il a commencé à avoir du mécontentement. Non seulement ce qu'on avait promis aux joueurs ne s'est pas déroulé, mais en même temps, on a vu ce qui se passait à l'extérieur de Shawinigan. Et c'est là, là que les attentes n'étaient pas les mêmes.
Évidemment, Steve, Martin Mondou qui a mentionné dans ce point de presse-là que là, sa tâche principale, c'est de trouver un nouvel entraîneur-chef pour les Cataractes. Selon toi, est-ce qu'il y a un prospect particulier déjà en vue?
Je pense qu'il y a surtout un profil, Serge. Je serais vraiment étonné qu'on y aille avec un très jeune entraîneur, un gars qui n'a pas d'expérience dans la LHGMQ. On termine un cycle de 5 ans. Ça va être le 4e entraîneur-chef en moins d'un an et demi quand tu ajoutes à ça les adjoints. Ça fait beaucoup d'instabilité. Donc, à mon avis, ça va prendre quelqu'un qui a un leadership fort, un gars qui a de l'expérience, un gars qui a déjà gagné pour, d'une part, prendre en main cette équipe-là qui a encore besoin de grandir collectivement, qui a encore besoin d'acquérir des choses, mais aussi d'être une figure d'autorité. S'assurer que les joueurs, ben, il va y avoir des conséquences, il va y avoir quelque chose qui va se passer si jamais il y en a un, deux, trois, quatre qui ne rentrent pas dans le moule.
OK, Steve, dis-moi, la semaine dernière, on s'est jasé, puis tu soulevais le nom d'Éric Veilleux. Encore aujourd'hui, est-ce que tu persistes et signes? Est-ce que, selon toi, c'est le nom le plus plausible pour reprendre la barre des Cataractes?
Je pense, Catherine, que c'est le candidat numéro un de Martin Mondou. Maintenant, est-ce que les Cataractes sont le plan A d'Éric Veilleux? Ça, je suis moins sûr de ça. Okay. Tu sais, lorsque les gens qui travaillent dans le hockey junior s'en vont vers le hockey professionnel, normalement, pour eux, c'est une promotion. Ils veulent pas nécessairement revenir en arrière. Éric Veilleux l'a fait dans le passé. Il est revenu du côté d'Halifax, entre autres. On sait qu'il y a des attaches dans la région, beaucoup d'amis. Si jamais il revenait dans le junior majeur, si il choisissait de revenir comme entraîneur-chef, je pense que là, les Cataractes seraient la meilleure destination possible pour lui. C'est un gagnant, Éric Veilleux. Il pourrait prendre la tête d'une équipe extrêmement talentueuse. Maintenant, quand je te dis que je suis pas sûr, c'est que je pense que son plan A, et je n'ai pas parlé à Éric là, dans les derniers jours, mais je pense que son plan A, c'est de rester chez les professionnels.
Steve, maintenant, au niveau des joueurs, parce qu'il y a encore quand même certains besoins à combler chez les Cataractes, tu l'as dit tantôt, le talent, c'est pas la question du côté des Cataractes. On regorge de talent pour la prochaine saison. Mais on a remarqué, toi et moi, en ondes, lors des matchs, lors de la série contre le Sanic de Rimouski, ce qui manquait peut-être, c'est des joueurs de style papier sablé, du genre Mathieu Olivier, dont Martin Mondou, d'ailleurs, a parlé hier dans sa conférence de presse. Mathieu Olivier, pas le plus talentueux, mais à force de travail, a atteint la Ligue nationale, tout comme le défenseur Simon Benoit. Est-ce que ça risque d'être parmi les besoins les principaux à combler chez Martin Mondou?
Ben, c'est ce que je pense aussi, Claude. Mais la bonne nouvelle, c'est que des joueurs de quatrième trio, des joueurs de troisième trio, c'est pas ça qui coûte vraiment cher. Hein. Sur le marché, je me souviens de Samuel Billier, je pense, avait coûté un choix de quatrième. On a rendu des services incroyables aux Cataractes. Des joueurs comme ça, tu peux les avoir en tant qu'invité, tu peux en trouver en Ontario, tu peux en trouver comme agent libre. Donc ça, c'est, je te dirais que c'est la finition qui coûte le moins cher. Maintenant, lorsque ces joueurs-là arrivent, c'est une chose d'aller les chercher. C'est une autre chose de leur donner un rôle cette année. Je pense que c'est quelque chose qu'on reprochait à Ron Schultz. D'ailleurs, Martin Mondou en a parlé dans la conférence de presse. C'est qu'on n'est pas arrivé à donner un rôle à tout le monde dans la chambre. Les meilleurs joueurs jouaient beaucoup. Et quand je dis beaucoup, je veux dire énormément. Alors quand des gars comme Maverick Bourque et Vasily Ponomarev jouent à 5 contre 5 sur le quatrième trio à l'occasion, en avantage numérique, en désavantage numérique, donc prennent 25, 26, près de 30 minutes par match, bien, nécessairement, il y a des joueurs dont les pieds sont assez froids, merci, sur le banc de l'équipe. Donc, il faudra trouver une façon d'amener ces joueurs-là, de leur trouver un rôle, de leur donner du temps de jeu pour s'assurer qu'ils se sentent impliqués. C'est quand ces joueurs-là se sentent impliqués qu'ils peuvent amener cette énergie-là, qu'ils peuvent convaincre peut-être les meilleurs éléments de les suivre dans leur sillon.
En terminant, Steve, je t'amène ailleurs complètement, parce que Martin Mondou y a fait référence, et Roger Lavergne également. On comprend bon, que cette saison-là, elle s'écrit à l'encre rouge. Alors, ce qui veut dire que les Cataractes ont perdu beaucoup d'argent cette année, ce qu'il faut comprendre.
Ben oui, les Cataractes ne font pas les choses à moitié, Catherine. Tu sais, c'est un petit marché, mais qui a les ambitions d'être un gros marché, qui a un gros budget d'opération. Pour les équipes qui travaillent avec un petit budget d'opération, cette saison-là, surtout si l'équipe a été éliminée rapidement, n'est pas catastrophique. Il y a eu l'aide du gouvernement, 1 million quelques par équipe. Et avec ça, là, je te dis pas que ces équipes-là roulent sur l'or, mais je pense qu'ils ont réussi à s'en tirer sans trop de problèmes. À Shawinigan, bon, le budget d'opération, je pense, tourne autour de 2 millions. Tu sais, on ne sait pas exactement le chiffre exact, là, mais c'est environ 2 millions par année. Donc, fais le calcul, 2 millions par année, tu en reçois un de Québec, il y en manque un quelque part. Là. Oui. Je comprends qu'on a quand même pu faire certains aménagements, qu'on a réduit certaines dépenses, mais au final, c'est sûr et certain que les pertes de l'équipe se chiffrent en centaines de milliers de dollars.
Merci beaucoup, Steve. Merci d'avoir été là encore une fois ce matin.
Toujours un plaisir. Bonne journée.
OK. Salut, Steve. À bientôt. Steve Turcotte, journaliste pour le Nouvelliste et analyste des matchs des Cataractes sur nos ondes.